Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Rassette, c'est l'heure d'Accès libre et aujourd'hui, on travaille. Donc Raymond Gouin, directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées, nous parle d'un projet pilote qui va permettre à 60 jeunes en situation de handicap de vivre des stages en milieu de travail. Dans le même esprit, Franck Bouchard, notre chroniqueur Monde du Travail, va nous parler de cette situation pas toujours facile pour les personnes handicapées de passer de l'école au monde du travail. Et aussi, et avec beaucoup d'enthousiasme, nous allons accueillir un représentant du Conseil de la Première Nation, Abitibi-Winnie. Notons qu'il s'agit de la première fois qu'une communauté autochtone se voit remettre le prix à part entière au Québec. On est bien content de les accueillir. Dans le cadre de la campagne de l'ONU contre la violence faite aux femmes, qui se tient jusqu'au 10 décembre, une artiste, Alexandra Bastien, brise le silence par le bruit que fait l'art. Et dans quelques instants, la militante et présidente du RAPLIC, Linda Gauthier, nous parle d'un projet d'avant-garde pour rendre accessibles des commerces. Vous vous rappelez peut-être, dans les années 80, il y avait une série de publicités très populaire, celle des stores au bon marché. Eh bien, cette publicité résonne jusqu'ici puisque c'est les entreprises Schiller, entre autres, dont on va parler. Je m'excuse, je vole le punch, mais aujourd'hui, on va certainement davantage dire oui, Linda. Alors, bonjour, Linda Gauthier, présidente du RAPLIC.
Oui, Benoît, comment ça va?
Ça va bien. Merci d'être avec nous. Donc, vous avez des bonnes nouvelles à propos de l'entreprise Schildev qui possède, entre autres, les stores au bon marché, mais plein d'autres commerces.
Et oui, tout à fait. Ben, en fait, pas nécessairement plein d'autres commerces, mais plusieurs immeubles, comme tels, ils sont propriétaires d'immeubles, pour la plupart commerciaux à Montréal, sur plusieurs artères très connues. Et puis, oui, c'est ça, c'est par rapport à eux que je suis ici, là, en onde.
Ben, racontez-nous ce que vous avez réussi avec les entreprises Schildev. Rappelons que c'est plus simple peut-être de s'adresser aux propriétaires qu'aux commerces individuellement, mais qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Qu'est-ce que vous avez comme deal avec eux?
Bien, ça date de quand même assez longtemps. On avait fait, nous, le RAPLIC, une journée d'accessibilité sur la rue Masson en septembre 2010.
OK.
Ça, c'est dans les tout débuts du RAPLIC. Et on s'adressait aux commerçants, on leur disait, on faisait des recommandations, en fait, en leur disant, ça prendrait pas grand-chose, c'est juste une marche. Puis là, ils nous disaient, oui, mais nous, on est locataires du bâtiment. Malheureusement, on peut pas. Et puis, il faudrait s'adresser aux propriétaires. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et on a envoyé depuis ce temps-là des lettres. Et on n'a jamais eu d'accusé de réception.
Okay.
On s'est dit, bon, ils ne veulent rien savoir. Puis à un moment donné, ben, finalement, il s'est passé quelque chose. Et puis, on a eu une discussion, finalement, avec eux. On a, par un bien heureux concours de circonstances, on a été capable de rencontrer leur architecte et puis leur avocat aussi.
OK.
Et finalement, la conclusion a été que on leur a demandé s'ils pouvaient commencer à regarder ça, parce que quand même, ils sont propriétaires de, écoutez, plus que ça encore, mais sur si on regarde Sainte-Catherine, Saint-Hubert, Masson, Mont-Royal, ça représente au-delà de 400 immeubles.
Ah, oh, mon Dieu, mais c'est important.
C'est énorme.
C'est important.
Oui, mais je veux dire, de ces 400-là, qui ont une ou deux marches à peu près, je dirais que ça représente à peu près les deux tiers quand même.
OK. Donc, est-ce que vous avez bon espoir qu'on va rendre accessible de manière universelle tout ça ou qu'on va améliorer l'accessibilité?
Oui, tout à fait, parce que là, je veux dire, l'entente, c'est sur un plan quinquennal.
OK. Donc, sur cinq ans, oui.
C'est pas très long. Et puis, là, on va commencer. On commence toujours avec des immeubles qui vont être identifiés. Fait que là, on en a identifié 10 dans un premier temps sur la rue Masson, puis ça faisait pas l'affaire. Fait qu'on est allé en chercher 10 autres. Il faut voir, évidemment, parce que c'est un peu compliqué, c'est que l'aplanissement va se faire par l'intérieur. Hein. On peut pas faire une rampe à l'extérieur puis laisser ça sur Masson. Il faut respecter le corridor piétons.
Oui, c'est important de repréciser ce que vous dites, Linda, c'est que très souvent, on doit travailler sur ce que possède le propriétaire, hein, pas sur l'espace public.
C'est
puis
ça.
Quand on encombre l'espace public, ça devient un obstacle pour notre monde, les personnes aveugles, personnes en situation de handicap.
Okay. Absolument. Donc. Et en faisant l'aplanissement, la rampe par l'intérieur, si on veut, on se trouve forcément à perdre la superficie.
Mm-hmm.
Et puis, c'est pour ça que l'avocat était là, parce que ça représente à ce moment-là, en jargon juridique, là, une contrainte excessive.
Ah ouais. Si une perte importante d'espace, oui. C'est de l'argent de moins lié
voilà.
aux ventes, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ça fait que c'est une négociation qui était serrée. Puis justement, les premiers qui ont été identifiés ne faisaient pas, pouvaient pas faire partie de ce portrait-là. Les autres, les 10 autres suivants, ont pu faire partie de l'échantillonnage. Puis ça devrait commencer, écoutez, très bientôt. Je ne sais pas si ça va se faire en hiver. Mais nous, on les revoit de toute façon le 17 janvier prochain.
Okay.
Fait que c'est là qu'on va voir, on va avoir un plan très précis de ce qui va être fait et pas.
Donc, est-ce que c'est fort au point qu'on imagine que les 400 commerces en 5 ans seront accessibles?
Pas les 400, parce qu'il y en a qui ont plus qu'une marche ou deux.
Okay.
Là, ça va représenter, c'est vraiment quelque chose qui pourrait pas être fait vraiment un aplanissement comme tel. Ça prendrait peut-être un mont de charge ou autre chose. Les autres, ça serait plus compliqué.
Okay.
Comme je vous dis, il y en a quand même deux tiers. Là, à peu
ben
près
oui,
sur
c'est
400.
Immense.
C'est immense. Ah. Ben oui. Pourquoi pas? C'est pour ça qu'on a eu justement une entente.
Ben oui. Est-ce que vous pensez que ça va ouvrir la voie à d'autres entreprises d'emboîter le pas, de faire ce même genre de geste-là, ou d'autres propriétaires de commerces, d'espaces à louer?
J'imagine, oui? absolument. De toute façon, nous, on n'attendra pas justement on ne courra pas nécessairement. Si ça se présente, oui. Un qu'on va approcher, par exemple, c'est, je me souviens pas comment il s'appelle, ils détiennent beaucoup, beaucoup d'immeubles commerciaux, c'est quoi leur nom, mon Dieu, des gestionnaires immobiliers importants.
Ça commence par Cogir?
À Québec.
Pardon?
Je pense que c'est La France Mathieu ou La France Maheu à Québec.
Okay.
C'est des gestionnaires immobiliers qui détiennent beaucoup, beaucoup d'immeubles dans la ville de Québec.
Okay. Donc, votre prochaine cible, entre guillemets, c'est Québec?
Absolument. On est pan-québécois, on va laisser le grand village de Montréal, on va aller voir un peu ce qui se passe ailleurs.
C'est bon.
Oui.
Ben merci de vous promener comme ça. En fait, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que c'est une nouvelle stratégie. Hein? Souvent, les groupes ont tendance à surtout s'adresser au pouvoir public, mais là, vous vous adressez aux gens qui ont beaucoup d'un coup de commerce parce qu'ils en sont prioritaires des espaces.
Beaucoup, beaucoup, exactement. Et beaucoup, faut le dire, là, quand même, beaucoup de sous.
Oui, en plus.
C'est ça. Fait que, puis on les pensait, moi je les pensais à cause qu'on n'avait pas de réponse, je les pensais inaccessibles, pour faire un jeu de mots. Mais c'est quand même non, parce que c'est le nom de Stephen Schiller qui est conjoint avec moi sur le communiqué. Fait que c'est quand même peut-être pas rejoignable très facilement, mais je veux dire, c'est lui qui a signé.
Ouais.
Et puis, tu sais, je pense qu'il y a moyen. Moi, je devrais le rencontrer le 17 janvier. Là.
OK. Bien, écoutez, vous faites des grosses affaires, mais avant de vous laisser, on devait attendre aussi, on devait avoir bientôt des nouvelles de l'engagement du maire sur un programme de subvention pour les commerces dans le but de les rendre accessibles universellement. Mmh. Est-ce que vous avez entendu parler de ce programme-là là, qu'on nous a promis depuis 2014?
Entre les branches. Là.
Mais avec le dernier budget, il n'y a rien d'officiel.
Rien d'officiel. Okay. Moi, je pense que l'enveloppe est pas assez élevée, selon moi. Là. C'est bien ce que j'entends parler. Moi, j'ai entendu parler de 4 points quelques millions.
OK. Mais c'est pas annoncé quand même.
Non. Écoutez, là. La ville a un budget de 5 milliards. On s'entend-tu, là? Non. Pas assez.
Non, c'est ça. 4 millions sur 5 milliards, c'est une vraie contrainte excessive, non. Linda.
C'est ça. Si on avait parlé de 40 millions, 400 millions, là, j'aurais commencé à dire, voilà, ça a du bon sens. 4 millions, c'est comme... C'est juste pour la dent creuse.
Ouais. Ben écoutez, on continue de surveiller les dossiers. Merci beaucoup pour votre travail avec les entreprises Shieldev. Merci donc, on avait avec nous Linda Gauthier, présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Le réplique. Le Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie a reçu le prix à part entière 2016, remis le 18 novembre dernier, dans la catégorie municipalité et autres communautés, puisqu'elle a défendu un projet unique, sans jeu de mots, le groupe unique. Avec nous, Malik Kitsabiche, je suis désolé, gestionnaire du secteur privé pour la Première Nation. Bonjour, Monsieur Kitsabiche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. D'abord, bravo pour ce prix qui récompense votre travail.
Merci, j'apprécie bien le groupe.
Bien, on est content aussi, puisqu'il faut rappeler que c'est le premier prix à part entière décerné à une communauté autochtone au Québec. Est-ce que vous êtes content d'être des premiers comme ça?
Oui, content d'être le premier, mais aussi pas juste le fait qu'on soit les premiers, content d'avoir reçu le prix aussi pour une reconnaissance envers mes employés aussi, puis oui. Les membres, les participants au projet, oui.
Bien, il y a beaucoup de monde quand même, il faut le rappeler. Avant, par exemple, qu'on parle tout de suite du projet, pour situer les gens, on parle de votre communauté qui est établie à 3 km au nord d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue. On peut repérer votre communauté comme le village Picogan, mais on préfère dire Première Nation Abitibi-Winnie. Donc, ça va pour les territoires.
Oui.
Bon, merci. Donc, les personnes maintenant, qui a collaboré, d'où ça vient ce projet-là, le programme unique?
Bien, pour commencer, le programme unique, au départ, juste faire une historique un peu, si je peux dire ça, de côté un peu politique, si je peux dire ça.
Bien oui, allez-y.
Nous, le centre de santé Picogan, on dessert une communauté, nos membres de la population. Comme un peu aussi à l'intérieur du réseau québécois, ils ont des programmes et services qu'ils donnent à la population. Mais nous aussi, à l'intérieur de la communauté, on donne des services à nos membres. Puis il y a certains programmes malheureusement, on n'a pas accès à ces services-là à l'intérieur de la communauté, ou bien on n'a pas accès à des programmes pour offrir ces services-là. Mais on peut toujours aller en chercher pareil dans le réseau québécois.
Mais donc, vous me tendez la perche. Là. Rappelons quand même que cette année, la Commission canadienne des droits de la personne a rappelé que c'était pas sur tous les territoires que le droit à la santé était reconnu parce que vous n'avez pas toujours les moyens de de donner les services en santé. Vous n'avez pas accès aux mêmes services qu'ailleurs.
Ouais. C'est ça. Puis, nos membres, des fois, tombaient dans l'oubli.
Oui.
Je peux dire ça comme ça. Ils voulaient être desservis par nous, là, les employés du centre de santé de Picogan aussi.
Okay.
Puis au départ, quand on a initié le projet, on avait beaucoup de demandes de la part des membres des familles des participants.
Oui, des pressions, vous dites, oui?
Non, pas nécessairement de la pression, c'est des demandes.
Des demandes,
à ce qu'on s'occupe de leur enfant ou de leur frère ou sœur. Si. Parce qu'en même temps, le prix, c'est des personnes avec des... Le projet unique va chercher des personnes à déficience intellectuelle léger ou bien un handicap physique léger.
Okay.
Que ça touche un peu dans ce sens-là, ces projets-là. Puis,
c'est ces gens-là qu'on appelle les uniques.
Oui, c'est ça. C'est ça. Le projet est unique parce qu'en même temps, ce projet-là ne cadre pas nécessairement avec les ressources qu'on a ici à l'intérieur de la communauté, dans le sens que les programmes ne touchent pas. Ça rentre dans aucun programme.
OK.
Puis aussi, on m'avait demandé tantôt, c'est qui œuvre là-dedans. Au départ, c'est Dani Wallet, ma psychologue qui travaille pour la communauté, a pondu ce projet-là avec l'aide d'autres intervenants du centre de santé pour justement répondre aux besoins.
Okay.
Puis faire autre chose pour desservir cette clientèle-là puis répondre à la demande.
Donc, la demande était claire. Qu'est-ce que vous offrez finalement comme service avec le
programme? On offre des services d'atelier de prévention à la toxicomanie, prévention aussi d'estime de soi. C'est des ateliers en lien avec... pour que les gens soient occupés aussi, tu sais, prévention de la rechute, prévention de la santé globale, si je peux dire ça comme ça. Puis aussi, on fait des activités. pour briser l'isolement aussi.
Mais c'est important que vous le dites parce que non seulement vous offrez des services à ces personnes, mais au fond, vous les aidez à ce qu'elles soient mieux incluses ou interagissent mieux avec le reste de la communauté?
Bien, qu'ils soient inclus parce que, oui, ils interagissent pour qu'il y ait aussi une action à l'intérieur de la communauté qui interagisse aussi avec les autres. Mm-hmm. Parce qu'en même temps aussi, c'est pas juste faire des activités. On a un projet où... Pendant l'été, ils font le ménage à l'intérieur de la communauté, mettons. Ils font, comme vers la fin de l'année scolaire, l'année passée, ils ont fait le ménage de la cour d'école.
Ah oui? Oui,
ils ont ramassé, mettons, les ordures qui traînaient et qui pouvaient traîner à l'intérieur de la cour d'école. Puis
comment ça va, la relation, disons, avec les élèves, par exemple, puis les participants au projet? Est-ce qu'il y a eu des ondes d'interaction?
Bien, pas nécessairement lors de l'activité.
Okay.
Mais je vous dirais qu'à l'intérieur de la communauté, on les voit plus, les participants.
Parce qu'il était invisible avant, c'est ce que vous décriez.
Bien, il était plus invisible. Il était plus en retrait, si je peux dire ça comme ça. On les voyait, mais... ils ne participaient pas autant aux activités. Ils étaient moins inclus, on dirait, dans la communauté. L'implication sociale était moindre.
Bien. Et donc, vous avez reçu le prix pour souligner cette initiative-là, qui est très nouvelle. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait exporter ce modèle-là ailleurs? Est-ce que vous avez déjà communiqué avec d'autres Premières Nations?
Ben, ça serait dans l'éventualité de faire pouvoir donner ça à d'autres communautés. Oui, ça se fait très bien à l'intérieur des autres communautés. S'ils veulent offrir ça à leurs membres, moi, je suis toujours ouvert.
Vous êtes partant.
Oui, c'est ça. Je suis toujours ouvert à partager nos succès puis aussi nos expériences.
Ben, très bien. Donc, on invite toutes les communautés à rejoindre le Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie. Merci beaucoup pour votre réussite, pour votre prix, Malik Kitsabish du Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Rasset.
Bravo encore.
Merci, au revoir.
On a travaillé beaucoup ces dernières années sur l'inclusion scolaire des jeunes en situation de handicap, mais comment on fait ensuite pour pouvoir gagner sa vie? Quelle grande question existentielle! Donc, pour Jaser Travail, notre chroniqueur Franck Bouchard. Bonjour, Franck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, on parle souvent de la transition de l'école au travail, mais pourquoi c'est important de la préparer, cette étape, quand on est en situation de handicap?
Ben, c'est important parce que, bon, ça dépend un peu évidemment des personnes,
ouais.
Mais on va s'intéresser à préparer cette transition-là, surtout pour des personnes qui ont peut-être besoin de plus de soutien, peut-être plus besoin d'être accompagnées dans cette transition-là.
C'est quoi qu'ils vivent, ces personnes-là? Est-ce qu'ils ont vécu des échecs dans l'intégration au travail ou ils sont moins scolarisés?
Ben, ça dépend, parce que quand on parle de transition, ça dépend à quel moment on va préparer ces choses-là. Lorsque le jeune est encore, par exemple, au secondaire, évidemment, le jeune n'a pas encore vécu nécessairement d'expérience de travail,
ouais.
Mais elle le souhaite. Le jeune le souhaite, évidemment, peut-être intégrer éventuellement un emploi, mais comment préparer cette transition-là vers l'emploi, comment préparer le jeune, comment lui-même, le jeune, peut découvrir aussi ce qu'il a envie de faire. On parle de jeunes, évidemment, de jeunes qui vont terminer les études secondaires. Peut-être pour certains, ça va être ils vont continuer des études vers le postsecondaire ou en formation professionnelle, cégep, etc. Pour d'autres, toutefois, ça va être peut-être la fin de la scolarité, en tout le moins dans une première étape, parce que, bon, elles n'auront pas réussi à aller chercher ce qu'il faut pour poursuivre les études postsecondaires en termes de diplôme, etc. Mmh. Mais elles veulent quand même avoir un emploi. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a un souci par rapport au milieu scolaire à dire ben, comment ce jeune-là va quand même pouvoir avoir accès à un emploi, à une vie active après son secondaire.
Mais c'est important.
Donc, c'est important de se soucier. On entend souvent aussi les parents se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe après 21 ans? surtout quand c'est des jeunes qui ont effectivement peut-être moins de capacité à aller chercher des diplômes qui vont permettre d'occuper un emploi plus spécialisé,
ouais,
des choses comme ça.
Ça arrive souvent d'entendre ça. Le 21 ans, c'est comme une étape charnière parce qu'il y a tout un système de programmes qui existe avant 21 ans et qui se termine au matin du 22 ans.
Effectivement, ce qu'on appelle le secteur jeune, là, donc le secondaire, les jeunes qui sont considérés comme des élèves handicapés peuvent poursuivre les études au-delà de 18 ans. Seulement, on arrête à 18 ans, puis bon, après ça, on doit passer à d'autres choses. Mais jusqu'à 21 ans, pour les élèves handicapés, ils peuvent poursuivre leurs études. Donc, c'est souvent là un peu la hantise ou est-ce que la crainte des parents de dire ben, qu'est-ce qui se passe après 21 ans? Parce qu'après 21 ans, effectivement, il n'y a plus nécessairement les mêmes services, c'est fini. On peut continuer les études au niveau adulte, par exemple, mais encore là, c'est peut-être moins. Il y a moins de support, moins de moyens qui sont fournis pour accompagner le jeune ou l'adulte maintenant. Donc, c'est pour ça que c'est important de préparer peut-être cette transition-là pour un peu voir, bon, c'est quoi qui va avoir besoin la personne pour poursuivre peut-être justement aux adultes ou alors vers l'emploi, mais comment le préparer adéquatement, dans quel milieu de travail, dans quel type d'emploi il serait capable de faire, etc.
Oui, il y a beaucoup de réflexions
pour la
personne aussi.
Pour la personne.
Mais dans le grand échiquier du monde du travail, là, qui a la responsabilité de voir cette transition-là?
Si on est au secondaire, c'est l'école qui a cette responsabilité-là. C'est la commission
avec
scolaire.
Avec un orienteur,
par exemple. Avec toute une équipe de travail. Ça peut être l'enseignant au départ qui va travailler avec son jeune, en allant chercher effectivement des expertises d'un conseiller en orientation, d'autres types d'expertise aussi, de conseiller en emploi du milieu, par exemple, des services spécialisés de main-d'œuvre, etc., pour explorer, pour préparer, et pas seulement dans la dernière année, mais dans les 2, 3, 4 dernières années, avant que le jeune dise, bon, si je termine à 18, 19, 20, 21 ans, ben, à partir de 15, 16 ans, je commence à me préparer. Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi que ça me prend aussi en termes d'autonomie, en termes de bagage pour pouvoir transiter? Donc, c'est pas seulement de savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie, qu'est-ce qui serait possible que je puisse faire, mais qu'est-ce que ça me prend pour le faire aussi? Parce qu'on parle de vie active, pas seulement l'emploi, mais aussi la vie active, c'est aussi je veux rester en appartement, je veux être à mesure d'être
déplacé. C'est une grande question, soyons honnêtes.
Il y a beaucoup de questions. Ouais. Donc, tout ça aussi, c'est explorer aussi, pas juste la dimension professionnelle.
Est-ce qu'il existe des exemples d'initiatives qui pourraient aider à favoriser cette transition-là pour tout type de jeunes? Là,
oui, ben, pour tout type de jeunes. Par rapport à plusieurs régions du Québec ont mis en place depuis, disons, pour certaines, depuis une dizaine d'années, des initiatives comme ça qui permettent de préparer. Donc, avec de la formation, des outils pour les enseignants, pour les élèves, pour les parents aussi, parce que les parents, il ne faut pas les oublier là-dedans.
Ils sont souvent très, très là.
Donc aussi, comment planifier tout ça, comment se préparer, comment explorer. Donc, c'est sûr qu'il y a des régions, je pense par exemple à l'Estrie ou à la Mauricie, qui sont très dynamiques depuis longtemps dans ce domaine-là. Montréal également a développé toute une approche il y a quelques années à ce niveau-là. Quoique Montréal, c'est très gros, plusieurs commissions scolaires, donc évidemment, c'est plus complexe de tout organiser, tout ça. Mais il existe aussi donc,
certaines écoles ou même commissions scolaires, ils ont des vocations précises pour tel type, entre guillemets, de clientèle ou personnes
effectivement, ayant des déficiences. Ça fait souvent partie de leur mission de préparer le jeune parce qu'ils ne veulent pas, où ils vont accueillir une bonne part ou essentiellement ce sont des jeunes en situation de handicap. Donc, ça fait partie de leur préoccupation constante. Et c'est d'ailleurs souvent de préoccupation d'écoles comme ça que l'idée de préparer, de planifier a démarré et que finalement, on essaie de répandre ça dans d'autres écoles qui vont accueillir des élèves dans des classes régulières, par exemple, mais qui vont avoir besoin aussi d'un coup de pouce pour
transiter. Le travail, au fond, il y a beaucoup, les initiatives dont on parle, là, c'est beaucoup de la formation, de la sensibilisation pour que les milieux accueillent bien puis permettent une transition heureuse.
Effectivement, et surtout s'équipe d'une procédure, de façon de faire, qu'il y ait des gens aussi qui sont qu'il y ait des adaptations, parce qu'on parle de la scolarisation, mais on parle dans ce contexte-là de la transition, de se préparer aussi avec des outils. Donc, c'est sûr que c'est pas uniquement c'est pas uniquement le bon vouloir. Faut qu'il y ait une volonté du milieu de préparer tout ça.
C'est tout un tour d'horizon.
C'est tout un tour d'horizon.
Très peu de temps.
C'est ça. Mais j'ai essentiellement parlé en plus du milieu secondaire parce qu'au post-secondaire, c'est peut-être pas les mêmes enjeux. L'élève au cégep, université qui termine, va quand même aussi vouloir aller travailler. C'est peut-être pas les mêmes enjeux, les mêmes types d'organisations, mais je pense par exemple à une organisation comme l'ACEPS, l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités postsecondaires, s'est intéressée beaucoup à cette question-là dans les dernières années, à préparer aussi des outils. Donc, à partir de leur site web, on peut avoir accès à ces outils-là, mais par rapport à la préoccupation de dire « Oui, je vais aller me chercher un bagage en termes de diplôme, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'automatiquement, je vais avoir facilité à accéder au marché du travail. » Il faut aussi, même si j'ai un bon bagage académique, que je prépare ma transition vers le marché du travail et quoi, ce que ça me prend aussi comme outil pour réussir cette transition-là, même si j'ai maintenant, je suis un adulte et que je suis au post-secondaire, ça ne veut pas dire que ça va se faire tout seul, sans effort, sans mettre de préparation.
Donc, préparation nécessaire pour tout le monde, mais avouons quand même qu'il y a deux réalités différentes. Les personnes qui ont des diplômes postsecondaires et des personnes qui n'en ont pas. Hein? C'est pas les mêmes jobs qui s'offrent à nous.
Effectivement.
Puis peut-être que c'est pas le même type de soutien qu'on peut avoir.
Effectivement.
Aussi.
C'est sûr que les jeunes qui vont terminer au secondaire et qui ont besoin de plus de soutien, c'est surtout là que cet enjeu de la transition se joue, où il y a besoin d'un beaucoup plus de support. Au postsecondaire, c'est davantage que les personnes elles-mêmes aillent chercher du bagage, des outils pour leur permettre de mieux connaître ce qui s'offre comme service, programme, etc., et se préparent à transiter.
Merci infiniment, Franck Bouchard, chroniqueur Monde du Travail.
Merci bien, ça m'a fait un grand plaisir.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
Le gouvernement du Québec vient d'annoncer un financement de 1,1 million pour un projet pilote de 2 ans proposant des stages rémunérés à des jeunes personnes en situation de handicap. Donc, Raymond Gouin, qui est directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées et un des partenaires importants de ce projet pilote, il est avec nous. Bonjour, Monsieur Gouin.
Bonjour, Monsieur Lassette.
Merci d'être là. Donc, bravo pour cette initiative.
Ben merci à vous. C'est un plaisir d'être avec vous et de pouvoir en parler.
D'ailleurs, je vous demanderai d'emblée, quel est le rôle exact, M. Gouin, du Conseil québécois des entreprises adaptées dans ce projet?
Ben en fait, on a initié l'idée de ce projet pour que nos membres, les entreprises adaptées du Québec, puissent accueillir des stagiaires. On a initié cette idée, on l'a proposée au gouvernement du Québec, qui, après quelques discussions, a accepté d'y investir. Et nous, le Conseil québécois, on coordonne l'ensemble de ce projet-là avec 8 des entreprises adaptées qui sont membres de notre réseau, donc qui accueillent les stagiaires. Alors, notre rôle est de coordonner surtout le processus d'accompagnement et de formation des stagiaires pendant leurs 52 semaines de stage.
Ah, donc, c'est un stage d'une année entière.
Exact.
Et donc, c'est rémunéré tout du long?
Absolument.
OK. On parle d'entreprise adaptée quand on vous parle, mais pour les gens qui nous écoutent, en quoi ça consiste exactement?
Bien, en fait, il y a 43 entreprises adaptées au Québec. Ce sont des entreprises qui sont accréditées par Emploi Québec et qui bénéficient d'un soutien financier d'Emploi Québec pour embaucher des personnes en situation d'handicap. La particularité des entreprises adaptées, c'est qu'elles doivent avoir au moins 60 % de leur main-d'œuvre qui sont des personnes qui sont diagnostiquées avec des handicaps.
Okay.
Et plusieurs de ces personnes-là, en fait, l'entreprise bénéficie d'une aide financière pour plusieurs de ces personnes.
Mais en fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est surtout des entreprises qui sont vraiment, pas juste adaptées, mais qui sont spécialisées, là, donc avec... que des personnes en situation d'handicap à leur emploi ou à peu près l'équivalent?
Oui, ce sont des entreprises qui sont dans différents secteurs d'activité très connus. Hein,
okay.
Par exemple, certaines des entreprises...
Oui, donnez-nous des exemples des entreprises là, qui participent au projet.
Bien sûr.
Oui.
Certaines des entreprises sont dans le domaine de l'entretien ménager ou de la transformation du bois ou de l'emballage, par exemple, de la manutention et de l'emballage. Dans le domaine de la logistique, ce qu'on appelle la logistique, c'est tout l'aspect de le traitement des commandes par Internet. Donc, les gens peuvent commander des choses chez Vidéotron, par exemple, un téléphone cellulaire ou un appareil d'enregistrement illico. C'est une entreprise adaptée qui est membre de notre réseau qui va vous transmettre cet appareil-là. Les entreprises adaptées font ce genre de choses. Elles sont aussi dans le domaine de la sécurité. Certaines ont des agences de sécurité, donc des personnes qui ont des handicaps, mais qui agissent comme agents de sécurité. Les stagiaires qui sont en poste ou qui vont être en poste prochainement dans le cadre de notre projet pilote sont surtout concentrés dans des entreprises qui font de la manutention et de l'emballage en usine, donc okay. la sous-traitance.
Dans le fond, c'est l'industrie de la transformation, c'est
absolument,
ça?
C'est surtout des contrats de sous-traitance pour des entreprises qui fabriquent des portes et fenêtres, par exemple, ou qui fabriquent différents types de choses, mais ils donnent des contrats à des entreprises adaptées pour faire une partie du travail en sous-traitance pour elles.
Mais donc, les jeunes stagiaires ou même les jeunes qui travaillent ou les personnes qui travaillent dans ces entreprises, souvent, ne sont pas très scolarisés, si je comprends bien.
Vous avez raison. Ce sont souvent des gens qui sont assez éloignés du marché du travail. Et nous, on a été préoccupés par la situation des jeunes, donc de la transition des jeunes de l'école vers la vie active. Je pense que vous aviez un invité qui parlait de ça avec vous.
Oui, Franck Bouchard. Oui.
Bon, c'est ça. Et nous, on a été préoccupés par ça. On a proposé donc de supporter un certain nombre de jeunes qui vivent une problématique difficile d'inclusion sur le marché du travail pour leur permettre de venir acquérir une expérience de travail. Et aussi une formation. Pas une formation spécifique, mais on évalue ces jeunes stagiaires-là quand ils entrent en poste et on leur donne une formation davantage orientée sur leur savoir-être, leur façon de se comporter en
donc,
entreprise.
Ça développe quand même leur possibilité d'être employable ailleurs que dans une entreprise adaptée, non?
Absolument. Okay. Et on a même une responsabilité à travers ce projet-là parce que on s'est engagé à faire transiter ces personnes-là par nos entreprises adaptées, mais de les supporter dans leur transition vers le marché régulier de l'emploi. Mm-hmm. Donc, le projet prévoit qu'on atteigne 55% de placement de ces jeunes stagiaires-là dans des entreprises régulières suite à leur stage.
Est-ce que c'est difficile à atteindre? Est-ce qu'on peut facilement imaginer que la moitié de ces jeunes qui travaillent dans des entreprises adaptées puissent vivre ensuite ou accéder à un emploi dans le marché régulier?
C'est certainement possible, mais évidemment, vous comprenez que ça dépend de la capacité du jeune.
Oui, mais les milieux aussi, parce que les entreprises, est-ce qu'elles sont adaptées? Est-ce qu'elles sont capables de recevoir ces jeunes?
Oui, bien, évidemment, il va falloir trouver des entreprises qui ont une certaine ouverture et pouvoir leur démontrer que les jeunes qu'on a formés ou à qui on a donné une expérience à travers ces stages-là sont en mesure d'être productifs et répondent à un certain besoin dans l'entreprise régulière.
Ouais. Alors, est-ce que les entreprises sont prêtes à accepter quand même que le type de productivité, disons, est différent de... je n'invalide personne en disant ça, là, mais il reste quand même que parfois, il y a plus de temps qui doit être consacré à l'exécution d'une tâche pour certaines personnes qui ont une déficience liée à l'agilité, par exemple, ou tout ça. Est-ce que les entreprises sont prêtes à accepter que... il faut avoir des attentes peut-être différentes sur certains aspects du travail?
Bien, écoutez, on l'espère. On s'est engagé dans ce projet-là en souhaitant qu'il y ait des entreprises régulières qui aient cette ouverture-là. Mm-hmm. Évidemment, si vous me posez la question, c'est parce que vous savez très bien que ça demeure une barrière, ça demeure une difficulté. Okay. Il faut promouvoir ça davantage, sensibiliser davantage les employeurs dits réguliers là, ou standards à cette ouverture-là. Mais évidemment, mieux le jeune est préparé, mieux le jeune a intégré des notions de savoir-être et de savoir-faire pendant son stage, mieux ce sera possible, plus ce sera facile de
donc
faire.
Donc, vous augmentez les chances de cette manière-là. Vous aidez les jeunes à adopter des attitudes différentes ou tout ça. Mais est-ce que votre... Parce que, bon, rappelons que Raymond Gouin, vous êtes directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées. Est-ce que vous consacrez quand même une partie de votre action à sensibiliser les futurs employeurs ou les autres entreprises qui ne seraient pas adaptées?
Ben, écoutez, non, c'est pas nécessairement notre rôle.
Okay.
Nous, on a voulu démontrer par ce projet pilote avec le gouvernement qu'on pouvait, les entreprises adaptées, contribuer davantage à faire transiter des personnes handicapées vers le marché régulier. Mais c'est clair qu'il y a d'autres organisations, d'autres intervenants qui doivent faire leur part du travail. Évidemment, dans ce projet pilote, on travaille beaucoup avec les services spécialisés de main-d'œuvre que vous connaissez certainement.
Les CEMO, c'est le mot qu'on utilise d'habitude.
Exact. Donc, Ce sont ces organisations-là qui nous aident à recruter les jeunes stagiaires et qui vont aussi nous aider à les replacer dans l'entreprise régulière par la suite.
Okay.
Mais on veut pas leur donner la totale responsabilité. On va vouloir s'engager. On a accepté de le faire à identifier des endroits possiblement où les jeunes peuvent se replacer et aider donc les CEMO à leur trouver des postes éventuellement. Mais chacun a sa part de responsabilité. Les CEMO jouent davantage ce rôle de sensibilisation des employeurs et d'intégration vers le marché régulier de l'emploi.
Mais donc, il faut voir ça peut-être comme une grande ligne. Hein? Vous êtes un des acteurs sur cette ligne de l'employabilité des personnes en situation de handicap. Et même, j'oserais dire, vous faites partie du cycle des personnes en situation de handicap qui sont un peu moins scolarisées. Hein?
Absolument. Vous avez raison. Les gens qui travaillent dans les entreprises adaptées, les personnes handicapées qui travaillent dans les entreprises adaptées, sont des gens qui, en très grande majorité, ont des contraintes sévères à l'emploi.
Ouais.
Et donc, sont des gens qui ont une certaine productivité, mais sont moins compétitives sur le marché régulier de l'emploi, c'est clair. Mais nous, on joue un rôle dans cette ligne-là, effectivement. Et le projet dont on parle, c'est un projet pilote, vous l'avez bien dit d'entrée de jeu. Donc, on a voulu, par ce projet-là, démontrer qu'on pouvait jouer un rôle. Mais on espère bien sûr qu'il y aura une suite à ça et que le milieu des entreprises adaptées pourra aider davantage dans le futur pour jouer ce rôle de transition vers le marché régulier.
Revenons sur les paramètres du projet. En fait, il y a 60 jeunes qui vont participer pendant toute une année dans 8 entreprises que vous m'aviez dit.
Oui.
Je fais un peu le calcul, là. 1,1 million, ça fait environ 16 000 $ par jeune. C'est quoi le salaire que ces jeunes-là peuvent avoir pendant l'année? Est-ce que c'est beaucoup plus que ce qu'ils ont en étant sur la solidarité sociale? Est-ce qu'on améliore un peu leurs conditions de vie aussi par ça?
Bien sûr. En fait, 1,1 million ne paie pas l'ensemble du salaire parce que les entreprises adaptées se sont engagées à en payer une partie.
Okay.
Donc, le gouvernement fait sa part, mais les entreprises adaptées vont investir, elles, près de 400 000 $ dans le projet parce que chacun assume une partie du salaire et des avantages sociaux qui sont consentis aux stagiaires.
Il y a des avantages sociaux aussi qui viennent avec un salaire minimum?
Il y a des avantages sociaux qui sont déjà existants dans certaines des entreprises participantes. Les stagiaires en bénéficient. Donc, ce sont des travailleurs au même titre que tous les autres.
Ouais.
Alors,
donc, ils répondent aux normes du travail?
Absolument.
Ah, bien.
Et ils gagnent un salaire minimum, au moins minimum, dans certains cas peut-être un peu plus.
Mm-hmm.
Mais l'aide financière dont on parle du gouvernement est basée sur un salaire minimum, donc un 10 et 50 $. Dans certains cas, les entreprises paient des meilleurs salaires que ceux-là. Donc,
okay, donc c'est un barème plancher. Mais écoutez, c'est une bonne nouvelle que vous me dites là. Parce que souvent, on a tendance à associer les entreprises adaptées avec peut-être des conditions de travail beaucoup plus faibles. Mais bon, la marque est au minimum, au salaire minimum. Écoutez, on a peu de temps et chic, malheureusement. Vous avez à peu près tout comblé les places de ces stages, de ces 60 stages-là. Donc, on ne peut pas, à ce moment-ci, inviter d'autres jeunes à participer.
Ben, écoutez, il reste une vingtaine de postes à combler, mais honnêtement, c'est un processus qui va assez rapidement.
OK.
Et les postes vont être comblés là, au cours des prochains mois. Normalement, tous les 60 stagiaires vont déjà être en poste dès le début de la prochaine année.
OK. Donc, si on veut plus d'informations sur ce projet, on repère le Conseil québécois des entreprises adaptées sur le web. Est-ce que vous avez une adresse simple à nous donner?
Bien sûr, cqea.ca.
Voilà, c'est dit, cqea.ca. Merci infiniment, M. Gouin.
Ça me fait plaisir, M. Racette.
Et je vous souhaite un projet pilote très fructueux. Alors, on rappelle que Raymond Gouin est directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées.
Merci.
Merci.
I was walking along, minding my business, when out of an orange-colored sky, flash, bang, alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange-colored view, flash, bang, alakazam, I got a look at you.
One look and I yell timber. Watch out for flying glass. 'Cause the ceiling fell in, the bottom fell out. I went into a spin, I started to shout, I've been hit.
This is it, I-T-it.
I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
Flash, bam, alakazam,
out of an orange colored sky. One look and I yell timber. Watch out for flying glass. 'Cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout, I've been hit.
This is it, I-T-it.
I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
Flash, bam,
alakazam, out of an orange colored purple stripe, pretty green polka dot sky.
Flash, a bam,
alakazam, and goodbye. Wow, I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
Vous aviez reconnu Nat King Cole, Orange Colored Sky. Évidemment, habituellement, on présente à l'émission des femmes, le plus souvent, qui font du folk. C'est le temps des fêtes et il faut parler orange. Donc, voici la raison pour laquelle Nat King Cole s'est immiscé dans notre émission. Maintenant, vous le savez peut-être, se déroulent les 16 journées d'activisme de la campagne mondiale contre la violence basée sur le genre. C'est une campagne de sensibilisation majeure qui est déployée par la division Femmes de l'ONU. Et donc, pour parler de cette couleur orange, hein, vous l'aurez deviné. On a avec nous Alexandra Bastien, artiste visuelle et qui participe à cette campagne. Bonjour, Madame Bastien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Et en tandem avec Nathalie Lemieux, directrice de la maison d'accueil et d'hébergement Regard en Elle. Bonjour, Madame Lemieux.
Bonjour.
Donc, je vous dirais d'abord, vous êtes deux femmes qui êtes solidaires de cette campagne contre la violence faite aux femmes, mais je vous poserais d'emblée, c'est quoi le lien qu'il y a entre vous?
Dans le fond, le lien, c'est que moi, je suis porte-parole de la maison Regard en Elle depuis 2011.
Et Oui.
Et Mme Lemieux est la directrice générale de la maison d'hébergement.
OK. Donc, Alexandra Bastien, qui parlait en ce moment, vous êtes la porte-parole. Pourquoi vous avez décidé de défendre ou de promouvoir ce que fait le centre d'hébergement Regard en Elle?
Mais parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment. Les personnes qui travaillent à Regard en Elle donnent vraiment des outils pour aider justement les femmes qui sont victimes de violences conjugales et aident leurs enfants. Il leur donne vraiment des outils pour qu'ils puissent s'en sortir puis se sortir de cette situation de violence qui est vraiment inacceptable. Mmh. Ils font vraiment un travail super professionnel. Ils sont très, très dévoués à la cause. Puis c'était comme logique pour moi quand ils m'ont approché puis ils m'ont dit « ça serait le fun, peut-être qu'on puisse avoir une association ensemble et que tu sois la porte-parole ». J'avais vraiment dit oui tout de suite parce que c'est vraiment une cause importante et il y a vraiment, vraiment beaucoup de femmes qui vont être victimes de violences d'une quelconque façon dans leur vie. Selon les statistiques de l'ONU, c'est une femme sur trois qui va être victime de violences conjugales dans sa vie. C'est vraiment énorme.
C'est immense. Oui. Et effectivement, il faut ajouter que ce chiffre, ce triste chiffre augmente quand tu es une femme en situation d'handicap ou racisée, etc. Écoutez, vous faites un travail nécessaire. Merci, mesdames. Mais j'oserais dire aussi à Madame Lemieux, pourquoi vous avez vu en Alexandra Bastien une porte-parole toute désignée pour votre maison?
Ben, en fait, Alexandra, à l'époque, avait travaillé sur une exposition, La Bête, et sa démarche, elle avait expliqué sa démarche artistique. statistiques qui étaient en lien avec la violence. Donc, il y a un déclic là, qui se faisait rapidement, automatiquement.
Donc, voilà, dans les thèmes, on se retrouvait. Mesdames, est-ce que vous diriez que vous avez une perspective féministe, tous les deux? Est-ce que vous faites plus qu'accompagner les femmes, mais peut-être proposer un autre modèle pour les rapports entre les hommes et les femmes?
Bien, tout à fait. Je veux dire, le fait qu'il existe de la violence à l'égard des femmes, ça dit qu'il y a encore une inégalité dans notre société.
Ouais.
Il faut absolument travailler en parallèle, oui, travailler auprès des femmes qui sont dans le besoin, mais il faut aussi travailler en parallèle pour changer les choses, pour arriver à une réelle égalité de fait, pas juste de droit. Donc, ailleurs dans le monde, c'est aussi de droit qu'il faut travailler très, très fort, là, mais il faut travailler à ce niveau-là. Et notre perspective par rapport à la violence, c'est vraiment une perspective féministe. C'est la façon qu'on travaille avec les femmes, c'est leur donner justement les guides de leur propre vie, qu'elles puissent reprendre du pouvoir sur leur vie, dévictimiser les femmes dans un processus d'empowerment, de prise de conscience collective.
Et donc, avec ce projet en tête, Alexandra Bastien, vous êtes une femme tout à fait, qui brille, qui met de la couleur, qui endosse aussi cette campagne internationale.
Mm-hmm.
J'aurais envie de m'adresser à vous comme artiste quelques instants. Faut rappeler aussi que les femmes en art visuel là, ont peut-être un peu moins de visibilité souvent. Hein? On peut se permettre ce message-là.
Oui, vraiment.
Mais donc, vous êtes une artiste qui parlez souvent des femmes. Vous prenez souvent la parole pour les femmes?
Bien, je trouve ça important. Dans le fond, quand on est artiste, on a un certain pouvoir, puis on a j'aime que mon travail artistique puisse donner des réflexions à certaines personnes, de réfléchir à quelque chose. C'est vrai que en art visuel, c'est pas facile d'avoir une tribune nécessairement, tu sais. Mais ce projet-là, Oranger le monde, je l'ai travaillé avec de la peinture corporelle.
Mmh.
Je me suis dit, je vais faire quelque chose de beau. Pour parler d'un sujet qui est vraiment difficile à aborder. Puis je me suis dit, peut-être que je vais toucher un autre public. On est habitué d'avoir des images chocs, d'avoir quelque chose qui est violent, qui est difficile. Puis peut-être que maintenant, on est tellement saturé, puis on est tellement habitué que ça passe par-dessus la tête. Mais je me suis dit, peut-être qu'en travaillant quelque chose qui est théâtral, de faire des capsules vidéo, je vais pouvoir toucher des jeunes, je vais pouvoir toucher d'autres gens, puis qu'on va pouvoir comme parler de ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux
Absolument.
Dire. J'ai vraiment essayé d'aller vers une autre approche.
Pardon?
Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça. Faire quelque chose de différent pour parler d'un sujet pendant les 16 jours d'activisme, puis je pense que ça passe quand même bien.
Oui. Bien, il faut aller les voir. J'invite les gens
capsules, oui.
qui nous écoutent sur YouTube, par exemple. Vous pouvez écrire 16 jours d'activisme contre la violence reliée au genre ou peut-être aussi
Avec
Alexandra... Ben voilà, Alexandra Bastien aussi. On arrive assez rapidement. C'est des capsules d'une minute extrêmement belle, avec une proposition artistique vraiment intéressante. Vous avez essayé d'illustrer avec ces vidéos-là plusieurs thèmes importants autour de la violence faite aux femmes, notamment l'inégalité ou l'égalité entre les sexes. Moi, j'ai été très chaviré, je dirais, par celle qui s'intitule ou qui porte comme thème « Silence ».
Oui.
Est-ce que c'est vraiment un des problèmes de la violence faite aux femmes, le silence autour de cette violence?
Ben, c'est Madame, ça. Oui, vas-y. Madame Lemieux va être très, très bien placée pour parler de cette problématique.
Oui.
En fait, c'est sûr que le silence, c'est un élément que toutes les femmes vivent. Notre société, le fait qu'on a une méconnaissance de la problématique,
mm-hmm.
on a des préjugés aussi qui sont mélangés à tout ça. On donne beaucoup de responsabilités aux victimes. Hein, on ne comprend pas comment ça se fait qu'elles restent là. On parle peu de l'agresseur. C'est tous des éléments qui freinent la victime, les femmes, à nommer ce qu'elles vivent. C'est très difficile. Elles ont peur des conséquences.
Oui.
Comment qu'ils vont me regarder? Vont-ils avoir un regard différent? Puis en plus, je veux dire, dans le cycle de la violence, parce que la violence conjugale, on s'entend, c'est des actes répétitifs. C'est une prise de contrôle, une prise de pouvoir, contrairement à ce qu'on croit, hein, que c'est une perte de contrôle. C'est vraiment dirigé, pensé, réfléchi, manipulé. La personne qui violente l'autre, tout est réfléchi. Et la dame qui vit ça, qui subit ça, finit par avoir des difficultés à apprendre, à réfléchir, à voir qu'est-ce qui lui revient, qu'est-ce qui lui revient pas. Parce que dans le cadre du cycle de la violence, il y a un épisode qu'on appelle la justification où l'homme violent va finir par convaincre la femme que finalement, au bout du compte, il s'excuse, oui, mais si elle avait fait les choses différemment, le problème n'aurait pas eu lieu, donc il n'aurait pas eu... Oui.
Oui, en fait, on attendait Nathalie Lemieux. Alexandra Bastien, vous avez envie d'ajouter?
Mais c'est vrai, c'est que dans le fond, ces femmes-là, souvent, elles pensent que c'est normal ce qu'ils vivent ou que c'est de leur faute. Puis c'est là qu'elle devient aussi un problème pour dénoncer ou pour justement changer de vie. Là. C'est ça que dans le fond, Nathalie explique.
Mais parlons de ce vidéo qui illustre la violence. Moi, je l'ai trouvé extrêmement fort. Comment vous avez fait pour faire ce vidéo-là?
Celui du silence ou celui de la violence physique?
Il y a la violence physique aussi. Effectivement, on aurait pu énoncer celui-là. Comment vous avez fait pour réaliser ces vidéos, Alexandra Bastien?
Bien, dans le fond, moi, d'habitude, je suis plus en art visuel, vraiment en 2D sur du papier, mais je me suis dit, la violence, ça laisse des traces physiques, mentales. Je trouvais que c'était vraiment le médium approprié pour justement créer de la peinture corporelle. Puis, chaque vidéo, dans le fond, c'est qu'il y avait une thématique qui était proposée, et quand la lumière ultraviolette apparaissait, on voyait les conséquences de la violence. Fait que dans le fond, c'était tout le temps, en deux temps, de créer un environnement, une atmosphère avec la modèle et le réalisateur Dominique Robitaille. Et ensuite, on arrivait avec l'ultraviolet qui apparaissait, et là, on comprenait qu'est-ce que ça pouvait faire dans sa vie d'avoir de la violence, d'être victime de ça. C'était ça mon approche, de le faire rapidement, dans le fond.
Puis vous utilisez des images fortes aussi, je pense entre autres au corset qui s'illumine pour parler de cette violence qui nous enserre, qui nous étouffe, ou cette eau dans laquelle est submergée une femme, par exemple, comme si elle perdait de l'air, ou en fait, ce qui est dramatique, c'est que parfois, elle en meurt. Et c'est presque ça que vous avez réussi à symboliser. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous l'aviez fait, c'est très dramatique, Mme Bastien, mais... c'est beau.
Oui, c'est beau.
Et ça doit voyager encore davantage. Il reste quelques jours avant la fin de la campagne, mais on espère que ça voyagera au-delà.
Oui, j'espère vraiment. Oui, bien, de toute façon, les vidéos restent. Hein. Ils vont être tout le temps sur la plateforme de notre site Internet, Regard en elle, tout ça sur la chaîne YouTube. Fait que d'après moi, ce projet-là va prendre encore plusieurs mois à prendre vraiment son envolée à travers le monde parce qu'il n'y a justement pas de parole. Il n'y a rien de tout ça. C'est universel. Chaque personne peut y voir quelque chose de différent. Puis peut-être évoluer avec ça, puis changer sa vie. On s'est dit, si on peut toucher certaines personnes puis qu'ils changent leur vie, mon Dieu, on va avoir fait ce projet-là pour une monstre de bonnes raisons.
Ben oui, les objectifs du projet, il y en a plusieurs, artistiques et sociales. C'est génial. Oui. Puis il faut rappeler d'ailleurs que c'est dans le contexte d'une campagne internationale lancée par la division Femmes de l'ONU. Mais on va revenir au local parce que derrière cet international, il y a le local aussi. Brièvement, aux femmes qui nous écoutent, puisqu'on est avec Nathalie Lemieux, directrice de la maison d'accueil et d'hébergement Regard en elle. Les services que vous offrez, ils s'adressent aussi aux femmes en situation de handicap. C'est important de le dire.
Oui, en fait, on a trois chambres à mobilité pour les femmes à mobilité réduite. Donc, même si une femme ou si une mère a un enfant à mobilité réduite, c'est possible de l'accueillir.
Bien. Et vous êtes située à Repentigny, c'est ça?
Oui.
Vous accueillez les familles, aussi les enfants plutôt, et les mères, c'est ça?
Oui, les femmes seules et les mères avec leurs enfants sont les bienvenues en hébergement, mais il y a des services à l'externe aussi.
Okay.
Donc, si elles vivent une situation de violence, mais elles ne souhaitent pas être hébergées, elles peuvent avoir accès à nos services individuels de groupe. Il y a une ligne 24/7 aussi. Donc, si on se pose des questions pour soi-même ou pour une amie, un proche, une collègue de travail, on peut téléphoner en tout temps.
Bien, et on trouve tout ça sur le site Regard en elle. Très important, vous tapez sur YouTube, vous êtes dans les premiers référencements. Merci beaucoup, Mme Lemieux. Écoutez, je veux aussi mettre en valeur votre travail, Alexandra Bastien, qui est aussi porte-parole depuis 2011 de Regard en elle et qui avait proposé des vidéos extraordinaires qu'on retrouve sur YouTube. Donc, on retrouve tout ça et plus encore, il y a même un livre sur alexandrabastien.com.
Merci, c'est exactement.
Bon, très bien. Alors, jusqu'au 10 décembre, parlons, brisons le silence, soyons solidaires des femmes qui vivent la violence. Merci beaucoup à nos invités et bien sûr, Mme Lemieux, qui est directrice de la maison, mais Alexandra Bastien, artiste en art visuel. Il y a toute une équipe qui travaille à cette émission. Il ne reste pas 30 secondes à l'émission, là. Ah! Oh là là! Alors, je vous remercie, mais il y avait bien sûr Linda Gauthier et puis Malik Kitsabiche des Premières Nations Abitibi, Winnie, Franck Bouchard, Raymond Gouin, toute l'équipe. Et je veux spécialement remercier Anne-Laure à la recherche qui nous quitte pour agrandir sa famille. Restez avec nous, Benoît Racette. On se retrouve la semaine prochaine.